Camille Larry. La première capture. Chapitre 1. Au commencement du printemps 1798, me disait Mestre Franck, le vétéran des patrons pêcheurs de la côte, j'étais novice à bord de l'épervier, brique de 300 tonneaux, bas de coque, aussi luisant que le calice de Saint-Pierre et taillé comme la lame d'une Navarra catalane. C'était le plus fin voilier de l'escadre. Maintes fois, les Anglais lui avaient donné la chasse, mais leurs pontons, lourds et joufflus, impuissants à lutter de vitesse avec notre brigantin, s'avouaient battus après quelques heures de poursuite. L'épervier ralentissait sa marche, se faisait suivre comme une belle demoiselle, laissait venir l'eau à la bouche des équipages ennemis, puis, lorsque la flottille était si près de nous qu'en prêtant l'oreille nous distinguions, parmi les coups de sifflet, les ordres des officiers commandant la manœuvre, le brave brick dépliait toute sa toile, depuis les petits phoques jusqu'aux bonnettes de cacatois, et, couché sur le flanc, la guilbe blanche des clumes, sa flamme rouge flottant fièrement à la cime du grand mât, prenait son vol, gracieusement penché, effleurant à peine les vagues, pareille à une mouette effarée. « Bonsoir, les Anglais !» Ils juraient comme des païens, et, pour saluer notre départ précipité, nous envoyaient des boulets de 36 dont l'épervier ne se souciait pas plus qu'un chien de braconnier d'une superbe paire de gendarmes en tenue d'ordonnance. Un matin pourtant, vers la fin du mois d'avril, l'épervier faillit se laisser prendre par une corvette anglaise qui revenait de Malte. Ce jour-là, le vent soufflait avec complaisance dans les voiles des ennemis et, nous prenant par le travers, nous obligeait à courir débordés. La corvette nous tenait presque. Pour nous dérober à cette poursuite, nous dûmes jeter l'ancre dans la rade de Gênes. L'enchanteresse imita notre exemple. Elle mouilla au large, bloquant le port, nous rendant la sortie impossible. Pendant 11 jours, les deux navires restèrent ainsi à une portée de canon, s'observant, l'un gardé par l'autre. Le soir du 11e jour, le capitaine de frégate Reboul, commandant de l'épervier, et les officiers de son état-major, invités à un bal donné à leur intention par le gouverneur de Gênes, quittèrent le brick pour se rendre à la Villa Floridiana, où la fête allait être célébrée. Une yole les conduisit à terre. Le temps était calme. Le ciel, d'un bleu pâle, avait mis sa parure d'étoiles. Pas un nuage sur la voûte de l'infini, et, dans la rade, pas l'ombre d'une vague. À 10 heures, tout l'équipage consigné dormait à bord. Seul M. Dutertre, jeune aspirant de marine qui faisait le quart, les bras derrière le dos, la tête basse, allait et venait sur la dunette, sifflotant pour se distraire le refrain d'une chanson bretonne. J'étais couché sur un amas de cordes au pied du cabestan. Dans le calme profond de cette nuit sereine, tout imprégnée de parfums printaniers, de ma place, je suivais des yeux une tartane de corailleurs qui gagnait la haute mer. Ça et là, entre les sombres massifs d'orangers en fleurs, je voyais scintiller les vitres de la Villa Floridiana, j'entendais les frétillements de la flamme embarrassée dans les haubans des huniers, et la brise m'apportait les notes mourantes de l'orchestre, au son duquel, là-bas, dans la salle des consuls, danseurs et danseuses, ivres de plaisir, ébranlaient le plancher. Chapitre 2. Après une heure de rêvasserie, j'allais céder au sommeil quand un bruit de voix qui s'élevait de la poupe attira mon attention. En dressant un peu la tête, je vis M. Dutertre assis sur la plus haute marche de l'escalier de la dunette, l'air distrait, les jambes croisées. Il s'entretenait avec un matelot qui, adossé à la rampe, se tenait debout devant son supérieur, respectueux, son béret bleu entre les mains. Je reconnus un pays dans ce matelot. C'était l'Infernet, un volontaire de 25 ans, bronzé, trapu, musculeux, au rude parler, qui, de simple pêcheur d'anchois, devait par la suite devenir grand dignitaire de l'Empire et contre-amiral. Toulon a été le nid d'où se sont envolés quelques-uns de ces aigles qui jouaient avec la mort comme avec une poupée de carton. Donadieu, Mordeille, Dervieux, Revès, l'Infernet, Gassinde étaient de ceux-là. À cette époque, il y avait encore de l'honneur et du patriotisme en France. Nos soldats, hâves, vêtus de guenilles, les pieds nus, passaient des journées entières sans manger et gagnaient une bataille à chaque étape. Nos marins aimaient mieux mettre le feu à la soute aux poudres et sauter avec leur vaisseau que de se rendre, tandis que maintenant, Il est dur aux anciens d'avouer ces choses-là. Hors de Sainte-Gaudriole et de Sainte-Ripaille, il n'y a point de salut. « Tu as besoin de moi ?» demanda M. Dutertre. « Oui, mon aspirant, » répondit l'autre. « Et tu veux ?»« Vous communiquez, si toutefois ça ne vous offense pas, une idée étonnante qui m'est venue. Tu as une idée, toi, l'infernette ?»« Oui, mon officier, il ne faut pas vous étonner de ça. Les plus mauvaises plantes produisent des fruits, comme on dit. » « Eh bien, voyons, tâche de t'expliquer. Ce navire au mouillage qui se balance à l'entrée du port est bien celui qui nous a poursuivis l'autre semaine, n'est-ce pas, le chose. L'enchanteresse. Chanteresse, c'est ça. Il faut s'étrangler pour prononcer ces diables de noms. Après. Voilà, mon aspirant. Tout à l'heure, étant seul dans l'entrepont, je pensais que... Pendant que l'état-major danse avec des citoyennes décolletées, nous devrions profiter de la nuit pour tomber sur ces darnagas d'anglais et leur prendre la corvette. De cette façon, il y aurait une fête pour tout le monde. Hé hé, qu'est-ce que vous en dites ? Tu es fou, mon pauvre l'infernette. Fou ? Ah ça, vous plaisantez, mon officier ? Non, je ne plaisante pas. Ce que tu me proposes est impossible. Impossible ? Mais trône des padiots, je n'ai pas perdu la boussole. C'est aussi aisé que de boire un chicoulon de vin blanc. Impossible, ils dorment tous à bord du ponton. Mes 30 hommes sont armés de haches d'abordage et de pistolets. Vous prenez le commandement, moi je suis votre second. Nous sautons sur le pont et avant que les Anglais aient eu le temps de se réveiller, le pavillon de la Grande-Bretagne est amené et le drapeau de la République secoue ses plis au bout de la brigantine. « Et tes 30 hommes, où les prends-tu ? » ?»« Ici, parbleu, je les ai choisis à la fourchette. Ce sont tous des crânes comme moi. Leur as-tu fait part de ton projet ?»« Certainement, mon officier, hier soir. Ils l'ont approuvé en promettant à Notre-Dame-des-Anges un ex-voto peint par Caillol, le barbouilleur de la rue des Pénitents Bleus, si le coup réussit. » Monsieur Dutertre, redevenu sérieux, réfléchissait. Il reprit, comme se parlant à lui-même, « Non, il n'y faut plus songer. »« Dites au moins pourquoi, mon aspirant ?»« Il va me faire dépasser le chapelet avec ses observations, » ajouta l'infernette entre ses dents. « D'abord, je n'ai pas d'ordre du commandant, et si la tentative ne réussit pas, ce qui est probable, on me dégradera. Ensuite, demain, au point du jour, nous serons fusillés pour avoir violé la consigne. Comprends-tu mes hésitations, maintenant ?» « Non, de sort, vous voyez tout en noir, vous. C'est vrai, en supposant que nous ne réussissions pas, il est clair qu'il faudra partir pour l'éternité. Les Anglais, ou à défaut, les tirailleurs de l'épervier, régleront toujours notre compte. Moi, je trouve qu'il est encore beau de mourir en tombant vaincu. Mais il ne faut pas oublier non plus que si tout va bien, le directeur Barras saura récompenser notre bravoure. Nous sommes jeunes, tous deux inconnus. » Je suis sûr que le bon Dieu nous envoie cette bonne fortune pour nous tirer de l'ombre qui cache nos fronts. Mon aspirant, je vous répète qu'entre ces chances diverses, il n'y a pas à balancer. Le succès est certain. Ils ne sont pas plus de 60 à bord de l'Anglais. Ils dorment comme des marmottes. En 20 minutes, le coup sera fait, je vous en donne ma parole. Et tout à l'heure, en retournant de la fête, où le capitaine Reboule trouvera la corvette capturée, solidement amarrée à l'arrière de son brick, où l'infernette de Toulon, l'infernette qui vous parle, n'est qu'un panteau. Il y eut un moment de silence. M. Dutertre se laissa convaincre par la pittoresque éloquence du matelot. « C'est décidé, s'écria-t-il brusquement. Fais monter les hommes. Vite, la chaloupe à la mer, et que Dieu nous protège. Ce n'est pas trop tôt. » répliqua l'infernette en prenant entre ses mains les mains de l'aspirant qu'il serrait à les briser. « C'est égal, vous vous êtes fait tirer la manche, savez-vous ?» Et sans rien ajouter, il baisa les scapulaires pendus à son cou, se débarrassa de sa veste qu'il placarda contre le bastingage de tribord, déboutonna le col de sa chemise, bondit à l'avant, se pencha sur le poste des matelots et siffla à 3 reprises. C'était, paraît-il, le signal convenu. En un clin d'œil, la moitié de l'équipage fut sur le pont. Des chevelures ébouriffées émergeaient du trou béant de l'écoutille. Des mains se cramponnaient au sabord. Il y avait comme une cohue entre les deux mâts. Tout ce monde s'agitait sans bruit. Présumant qu'on ne soupçonnerait pas ma présence, je me glissai parmi mes compagnons, je voulais être de la partie. Des haches, des pistolets, des poignards furent distribués. M. Duterte nous passa en revue, puis l'infernet, la tête nue, les poings serrés, prit la parole. « Vous n'avez pas oublié mes recommandations ?» demanda-t-il, en promenant sur nous tous ses yeux noirs, au fond desquels l'enthousiasme mettait des éclairs. « Non, non, » répondîmes-nous en étouffant presque notre réponse. « Et vous me suivrez partout ?»« Nous le jurons. Même à la mort, nous le jurons. Il n'y a pas une minute à perdre, zou, embarquez !» Nous descendîmes dans la chaloupe qui, aussitôt, s'éloigna du brick. Huit hommes ramaient. Les autres, couchés sous les bancs, cachaient leurs armes qu'un rayon de lune, glissant sur l'acier, pouvait faire remarquer. L'infernet, debout auprès de l'aspirant, tenait la barre. Nos avirons, vigoureusement gouvernés, battaient l'eau en cadence. Flic, flac, flic, flac. La chaloupe approchait de la corvette avec des élans rapides et l'écume soulevée babillait sous sa proue qu'elle éclaboussait. « Stop !» fit tout à coup l'infernet. La chaloupe accostait l'enchanteresse. Nous nous élançâmes sur les flancs noirs de la corvette. On eût dit autant de chimpanzés escaladant le tronc d'un dattier. De là, nous sautâmes sur le pont. Le chef de l'expédition était déjà sur la dunette. Il courut vers le timonier de quart et lui mettant ses pistolets à la hauteur du menton, « Vé, dit-il, c'est crides, t'es failli manja à quasi barlingo. Vois, si tu as le malheur de crier, je te fais avaler ces berlingots. » L'anglais ne comprit pas trop la phrase, mais il trouva le geste si persuasif qu'il ne bougea plus. Chapitre 3. Alors la bataille commença, terrifiante, acharnée. Planant au-dessus du tumulte, une voix tonnante criait « Faites des prisonniers, mais ne tuez pas. Ceux-là aussi ont des promises qui les attendent. » Chacun s'utilisait de son mieux. Les uns soulevaient les panneaux des écoutilles et barricadaient les cabines des officiers, les autres se laissaient couler au fond de la batterie. Sur le pont, on bâillonnait les rebelles. En bas, perdus dans les ténèbres, Français et Anglais se prenaient corps à corps. Partout, on combattait. Des éclats de voix, suivis de quelques détonations isolées, troublèrent l'effrayant silence de la nuit et tout redevint tranquille. L'équipage, surpris à l'improvise, incapable de résister longtemps, venait de se rendre. En comptant les morts, l'infernet s'aperçut qu'un coup de couteau lui avait ouvert la joue droite. On leva les ancres du navire capturé, notre chaloupe, reprenant sa route, le remorqua péniblement. À minuit, nos sentinelles veillaient à bord de la corvette et les matelots de l'épervier, satisfaits du devoir accompli, reposaient paisiblement dans leur hamac. L'aube pointait à l'horizon, jetant des teintes roses sur les vagues, lorsque le commandant Reboul rentra. La corvette amarrée à la poupe de son brick, les sentinelles de l'enchanteresse lui apprirent ce qui s'était passé. Sur le champ, il fit venir M. Duterte et l'infernet dans sa cabine. « Je sais tout !» leur dit-il, d'un ton qu'il s'efforçait de rendre sévère. « Pour commencer, vous allez passer 48 heures au fer. Nous verrons le reste après. » Il appela le quartier-maître. « Emprisonnez-moi ces deux hommes, commanda-t-il, et, jusqu'à nouvel ordre, ne leur donnez qu'une mesure d'eau avec une ration de pain. » Le jeune aspirant était concerné. L'infernet, lui, riait dans sa moustache. « Eh, laissez-le s'égosiller, murmura-t-il à l'oreille de l'officier. « C'est pour la frime, rien que pour la frime. » Le surlendemain, à midi, l'équipage était sous les armes. Le capitaine Reboul, en grande tenue, ganté de blanc, son sabre d'honneur au côté, causait avec son second. Les officiers d'ordonnance, groupés à l'arrière, attendaient ses ordres. Sur un signe d'un lieutenant, deux matelots, la carabine au bras, conduisirent les coupables devant nous. Le commandant marcha à leur rencontre. Il tenait une dépêche, son état-major l'entourait. « Après un châtiment nécessaire, la récompense méritée, » fit-il en souriant. L'infernet, par un décret signé hier, le directoire, bien aise de rendre un public hommage à votre héroïsme, vous élève d'emblée au grade de capitaine de frégate et nomme l'aspirant Duterte lieutenant de vaisseau. Citoyen, je suis heureux de vous l'apprendre devant tous, vous avez bien mérité de la patrie. » Une formidable acclamation souligna ces paroles. « Vive l'Infernet ! Vive l'Infernet !» hurlaient les matelots, transportés de fierté, pendant qu'une bordée d'applaudissements éclatait dans l'air. Brave l'Infernet, assis sur une pièce de 12, sa tête saignante dans ses mains, il pleurait la joie qui l'étouffait. « Trompez-Dieu ! » exclama-t-il en se dressant, après avoir essuyé ses paupières d'un revers de manche. « C'est la mère qui va être contente !» Le soir même, l'épervier, remorquant sa prise, mettait le cap sur Toulon, et le dimanche suivant, un peu avant la messe, l'Infernet, revêtu de son costume flambant neuf, portait à Notre-Dame des Anges l'ex-voto promis par ses compagnons au moment du péril. Chapitre 4. C'est au bord du golfe, sous la treille de son bastidon, un jour de tramontane, que Mess et Franck, toujours vert malgré ses 93 ans sonnés, me racontaient cette aventure audacieuse qui fut le premier pas du populaire provençal dont le nom seul semait l'épouvante parmi les Anglais. Je vois encore l'heureux vieillard, coiffé de son bonnet de cadis roux, les rondeurs aux oreilles, la tailleule autour des reins, les sabots aux pieds. Nous sommes assis sur le banc de pierre, tout près du puits, dans l'ombre tiède d'un figuier sauvage. L'ancien novice de l'épervier semble être redevenu jeune, ses yeux gris jettent des flammes furtives, sa pipe tremble entre ses gencives. Attendri par ses lointains souvenirs de gloire, il bat le briquet afin de mieux dissimuler les larmes qui glissent dans les plis de son visage, flétris par les fatigues de la mer. Tandis qu'il parle, les vagues moutonneuses déferlent, au-dessous de nous, au fond de l'anse, sur le sable fin où des barques sont échouées. Les filets, couleur d'amadou, sèches et tendus sur des perches plantées en terre, et plus loin, dans l'infini bleuâtre de la rade, les goélands entrecroisent leur vol, secouant dans l'incendie d'un coucher de soleil leurs larges ailes éblouissantes de blancheur.